Je me félicite de cette première étape. Emmanuel Macron annonce la libération de Cécile Kohler et Jacques Paris, détenus en Iran depuis 3 ans. 2 Français accusés d'espionnage par Téhéran. Emmanuel Macron qui dénonce une surenchère fiscale après avoir pris de la distance. Le président de la République revient dans le débat national. On ne rend pas un pays plus heureux quand on empêche ses champions d'aller conquérir de nouveaux marchés, a-t-il déclaré. Le Nouméa Women's Forum pourrait devenir un événement régional. C'est notamment la volonté de l'ambassadrice de France dans le Pacifique. Véronique Roger-Lacan nous l'a confié hier dans le magazine Citoyen, alors que le Nouméa Women's Forum s'est ouvert donc hier matin. La province Nord accueille 3 nouveaux médecins généralistes. Ils vont intégrer les CMS de Vaud, Puébo et Ponérioin. Le sport avec un choc au sommet en Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain reçoit son dauphin, le Bayern Munich. Coup d'envoi tout à l'heure à 7h. Dans le même temps, Monaco se déplace en Norvège sur la pelouse de Bodø/Glimt. On joue la 4e journée de la phase de groupe. La météo en Nouvelle-Calédonie, le soleil l'emporte largement, bien que souvent voilé par des nuages élevés. Les températures perdent 1 ou 2 degrés. Elles sont comprises entre 26 et 30 degrés.
Bienvenue dans l'Info Matin pour tout savoir de l'actualité en Calédonie, en métropole et dans le monde. Bonjour Nicolas.
Bonjour Thierry, bonjour à tous.
Et à la une, l'actualité internationale.
Oui, après plus de 1200 jours de détention, Cécile Kohler et Jacques Paris, les 2 derniers otages français retenus en Iran, viennent d'être libérés. Une annonce ce matin pour nous d'Emmanuel Macron. Le président de la République fait part de son immense soulagement. Les 2 ressortissants français qui ont pu quitter la terrible prison d'Evin. William Molinier pour Europe 1.
Ils viennent d'arriver à la résidence de France à Téhéran où ils sont pris en charge par les services de l'ambassade. Examen médical assez sommaire dans un premier temps, temps d'échange avec les services consulaires, puis débriefing rapide. Emmanuel Macron qui indique que le dialogue se poursuit avec les autorités iraniennes avant un retour, espère-t-il, au plus vite sur le sol français. Cécile Kohler et Jacques Paris avaient été condamnés mi-octobre à 10 ans et 6 ans de prison pour espionnage, ce qu'ils ont toujours démenti. Cela fait 3 ans qu'ils ont été arrêtés alors qu'ils avaient rencontré des enseignants iraniens en grève dans le pays. La tenue de ce procès avait été interprétée côté français comme un signe encourageant d'une prochaine libération parce qu'aucun citoyen étranger détenu en Iran n'a été échangé avant d'avoir été jugé par la justice iranienne qui tient à afficher un minimum de légalité. En contrepartie, la France pourrait renvoyer une ressortissante iranienne arrêtée pour apologie du terrorisme. Elle est aujourd'hui sous contrôle judiciaire et son procès est prévu à Paris en janvier. Reste à savoir dans quel état de santé sont Cécile Kohler et Jacques Paris après 1200 jours de détention, dans des conditions de détention très difficiles, dans une des prisons les plus dures du régime iranien. Leur famille indiquait récemment qu'ils étaient à bout de souffle.
Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, s'est lui exprimé il y a quelques minutes maintenant sur la libération de Cécile Kohler et Jacques Paris.
Ils sont aujourd'hui en sécurité à l'ambassade de France. Ils sont sous la protection de la France. Et nous allons continuer le travail que nous avons engagé depuis des semaines et des mois pour obtenir leur libération définitive. C'est une nouvelle très positive ce soir que nous accueillons avec le président de la République, mais c'est une première étape vers cette libération définitive. Nous allons poursuivre le travail discret, le travail de l'ombre, c'est le travail des diplomates, pour aboutir à leur retour en France dans les meilleurs délais. Ils vont bien, ils sont évidemment soulagés et ils semblent en bonne santé physique et morale. Ils sont entourés par l'équipe de l'ambassade. Et j'ai dépêché ce soir une équipe de renfort, un médecin, une agent du centre de crise et de soutien de mon ministère qui vont se mettre à leur disposition, à leur côté, pour les accompagner après cette épreuve, ce calvaire.
Une libération qui intervient, je le rappelle, après plus de 1200 jours dans les geôles iraniennes. L'actualité politique et les accords franco-algériens de 1968, de nouveau au cœur des débats. Il y a moins d'une semaine maintenant, une résolution du Rassemblement national avait été adoptée par le Parlement pour dénoncer cet accord. Et Marine Le Pen ne lâche pas l'affaire. La chef des députés RN a interpellé une nouvelle fois le Premier ministre sur le sujet et elle réclame des actes de l'exécutif, Maïalène Trémollet.
Oui, à l'occasion des questions au gouvernement, la chef de file des députés RN se félicite une fois de plus d'un vote symbolique et réclame désormais la preuve au Premier ministre qu'il reconnaîtra cette décision du Parlement en lui rappelant qu'il avait lui-même affirmé que le pouvoir était à l'Assemblée.
Monsieur le Premier ministre, je veux croire dans votre sincérité. Et puisque vous avez conditionné la légitimité de votre ministère sur la reconnaissance explicite d'un régime parlementarisé, ma question sera simple. Comment et sous quel délai comptez-vous mettre en application le vote de l'Assemblée nationale qui décide pour la France d'abroger l'accord de 1968 avec l'Algérie ?
En réponse, Sébastien Lecornu rappelle avant tout que ce vote n'a aucune valeur contraignante et législative et écarte d'office toute suppression de ces accords.
Je ne crois pas à l'abrogation de cet accord, mais à sa renégociation. Cet accord, à bien des égards, est caduque. Il faut donc désormais que ce début de renégociation démarre le plus vite possible. En tout cas, pas un sujet de politique intérieure, un sujet bilatéral de respect qu'il convient, à mon avis, de traiter avec beaucoup de sang-froid.
Pourtant, dimanche dernier, le ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, qualifiait ce vote d'affaire franco-française, précisant que le sujet ne concernera Alger qu'à la condition que le gouvernement français s'en empare et se tourne vers celui d'Abdelmadjid Tebboune.
Maïhélène Trémollet du service politique d'Europe 1. 74% des Français souhaitent l'abrogation des accords de 1968, facilitant, rappelons-le, la circulation, l'installation, le regroupement familial, l'octroi d'aides financières, sociales et médicales aux Algériens en France. C'est un sondage CSA pour Europe 1, CNews et le JDD. C'est donc au président de la République que reviendra la décision finale sur ce sujet des accords de 1968. Emmanuel Macron, qui a aujourd'hui repris le pouls du pays, loin des sommets internationaux, le président s'est rendu en Charente-Maritime. Au menu, l'inauguration des assises de l'économie de la mer à La Rochelle, puis direction Rochefort pour y visiter la maison de Pierre Loti et rencontrer des collégiens. Opération Reconnexion, un déplacement qui a donc permis au chef de l'État de s'inviter à nouveau dans le débat politique qu'il avait délaissé ces dernières semaines. Arthur Delaborde pour Europe 1.
Oui, après une semaine de chaos à l'Assemblée et une avalanche de nouvelles taxes sur les entreprises, Emmanuel Macron n'a pas pu s'en empêcher, il est monté au créneau.
Dans un moment où on voit ressurgir des discours qui m'étonnent, mais on ne grandit pas un pays en attaquant ses champions. On peut avoir des débats, ils sont toujours légitimes, ils sont nécessaires dans la vie d'un pays pour avoir une croissance juste, trouver les bons équilibres. On ne rend pas un pays plus heureux quand on empêche ses champions d'aller conquérir de nouveaux marchés.
Un commentaire à contre-courant du message officiel de l'Élysée qui jure que le président se concentre désormais sur les affaires internationales. Mais à La Rochelle, Emmanuel Macron a donc réglé ses comptes, ciblant la gauche, le Rassemblement national et même certains députés de son camp ayant voté de nouveaux impôts. Il défend ainsi sa politique de l'offre qu'il porte depuis 2017 et dans le même souffle sont en même temps énergétiques, dénonçant le très mauvais combat opposant le renouvelable au nucléaire et qualifiant l'éolien en mer d'énergie indispensable à la décarbonation. Une attaque contre la droite et le RN hostile à ses projets offshore.
Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1. Dans l'actualité politique toujours, les LR doivent-ils passer par une primaire pour désigner leur candidat à la présidentielle de 2027 ? La question était en tout cas au cœur d'un conseil stratégique du parti la nuit dernière. Pas de décision définitive à l'issue de cette réunion, mais une chose est sûre, la question d'une élection interne avant 2027 divise Alexandre Chauveau.
Bruno Retailleau s'est fixé l'été 2026 comme date limite pour que LR désigne son candidat et c'est pour l'heure le seul sujet de consensus à droite, car en l'absence de candidat naturel, la question d'une primaire revient comme une rengaine. Xavier Bertrand s'y oppose, mais le scénario est plébiscité par Laurent Wauquiez ou David Lisnard, favorable à un scrutin qui irait du centre-droit à Reconquête, la députée des Alpes-Maritimes, Michèle Tabarot.
Je suis depuis toujours assez favorable à la primaire, une primaire ouverte parce que je pense que ça permet de créer une véritable dynamique. On l'avait vu avec François Fillon. Après, il y a d'autres raisons qui ont expliqué l'échec. Mais en tout cas, il y avait 4 millions d'électeurs qui se sont déplacés. Et c'est quelque chose qui est intéressant.
D'autres cadres comme Jean-François Copé plaident eux pour une primaire sans Reconquête, mais avec Édouard Philippe. Nouvelle illustration de la coexistence de plusieurs chapelles chez LR. En attendant, un groupe de travail a été créé pour plancher sur le sujet. Manière de repousser à plus tard une question qui suscitera forcément des divisions à droite. Un moyen aussi de s'adapter à une situation politique particulièrement mouvante, marquée ces derniers mois par de multiples rebondissements.
Alexandre Chauveau pour Europe 1. Et enfin, les suites de l'affaire Shein. Le géant du e-commerce chinois promet de collaborer à 100% avec la justice. Le porte-parole en France se dit prêt à partager les noms de tous les acheteurs des poupées sexuelles à caractère pédopornographique. Ces personnes sont des dangers pour les enfants, a martelé de son côté ce matin sur Europe 1 la haut-commissaire à l'enfance Sarah El Haïry.
Ces poupées, elles ont été fabriquées et pensées pour être des objets sexuels. Et donc avec, malheureusement, faites pour de la masturbation ou de la pénétration. Désolée d'utiliser ces mots aussi crus si tôt le matin. Mais c'est pour prendre conscience de l'horreur et de l'abject de ces objets. Mon combat, il est de protéger les enfants face à l'ensemble des pédocriminels. Et quand on achète ces objets absolument abjects pour faire des sévices, c'est malheureusement, et c'est ce qu'on fait, c'est malheureusement une étape avant le passage à l'acte. Donc, bien sûr qu'on peut parler de Chine, mais je peux vous parler de toutes les autres plateformes qui commercialisent. C'est pour ça que les enquêteurs sont aujourd'hui mobilisés pour engager la responsabilité de ces plateformes, mais aussi pour aller plus loin, c'est-à-dire récupérer des coordonnées, parce qu'aujourd'hui, ces personnes sont des dangers pour les enfants.
Sarah El Haïry, haut-commissaire à l'enfance, interrogée sur Europe 1. Et enfin, en bref, Claude Bébéard est mort à l'âge de 90 ans. Il est le fondateur mondial de l'assurance AXA. Il avait créé son groupe en 1985 et avait quitté ses fonctions en 2008. Il est 6h passé de 41 minutes. Vous écoutez Radio Rythme Bleu. On va marquer une première pause publicitaire dans ce journal avant de voir toute l'actualité en Nouvelle-Calédonie.
Toute l'info en trois lettres, RRB. Vous rêvez d'une nouvelle cuisine ? DCSM vous propose des cuisines à votre style, adaptées à votre intérieur. DCSM, c'est des cuisines de qualité pour tous les budgets.
Venez découvrir votre future cuisine dans notre showroom, 5 route de la Baie des Dames à Ducos, 27 74 20 ou sur Facebook.
C'est la folie du jardin chez Cheval Distribution. Jusqu'au 23 novembre, profitez de prix promo sur vos indispensables de jardin. Jardinière, pots, terreaux, plantes, anti-limaces, produits anti-nuisibles et barbecue. Vous savez, toujours au meilleur prix, c'est chez Cheval Distribution.
RRB Matin, le journal, Nicolas Legrand.
L'actualité en Nouvelle-Calédonie, en bref, est la province Nord qui accueille 3 nouveaux médecins généralistes. Ils ont été accueillis vendredi et lundi dernier au cours de cérémonies institutionnelles avant de prendre leurs fonctions dans les CMS. L'un sera affecté au CMS de Vaud, un autre à Puebo après une immersion à Yengen. Le troisième docteur consultera au CMS de Ponériouin après 3 semaines d'immersion à Kouaoua et Point-d'Imier. Ces immersions qui doivent permettre, selon la province Nord, aux praticiens de mieux comprendre les réalités locales et les pratiques de soins sur le territoire tout en tissant des liens avec les équipes de terrain et la population. En bref, dans l'actualité, l'interpellation d'un mineur grâce à la coordination des polices nationales et municipales de Nouméa. Le jeune est soupçonné d'avoir incendié le store de la devanture d'un commerce du centre-ville samedi dernier. L'intervention rapide des pompiers a permis d'éviter la propagation des flammes. L'auteur présumé sera prochainement déféré devant la justice. Toujours en bref, le vol SB741 entre Singapour et la Tontouta, accusé 3h30 de retard environ la nuit dernière, il a dû se poser à Darwin avant d'arriver à Nouméa à 2h19. Le vol pour Paris via Bangkok est donc parti avec 3 heures de retard à 4h28 ce matin pour nous. Je le disais en titre, le Nouméa Women's Forum édition, la 5e édition s'est ouverte donc hier au centre administratif de la province sud. Le thème cette année, les voies du Pacifique, mais aussi la jeunesse. L'objectif clairement affiché par la fondatrice de ce forum, Naya Wateu, est de valoriser la coopération régionale. L'invitée d'honneur cette année est Véronique Roger-Lacan, l'ambassadrice de France pour le Pacifique. Véronique Roger-Lacan qui propose que ce forum soit étendu à l'ensemble de la région.
C'est amener tout le Pacifique, les États et territoires insulaires du Pacifique, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis et Futuna, mais projeter aussi la Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et Wallis et Futuna, à l'extérieur, parce que ces trois territoires ont énormément de choses à apporter. Donc j'ai proposé que le Nouméa Women's Forum devienne un Pacific Women's Forum. Je propose aussi de créer des parrainages entre les jeunes calédoniennes et des femmes du Pacifique qui sont de vraies femmes fortes, politiques, scientifiques, et des économistes. Et il faut créer des ponts au sein du Pacifique. Faire de ce Pacifique, c'est l'ambition, un vrai continent.
Véronique Roger-Lacan, qui était donc l'une des invitées de notre magazine Citoyen hier à la mi-journée. Une émission à retrouver en podcast sur notre site internet rrb.nc. Un magazine auquel participait également Naya Wateu, fondatrice du Nouméa Women's Forum, qui est devenue membre du gouvernement le week-end dernier en remplacement de Thierry Santa, qui a démissionné pour raisons professionnelles. Et ce matin aura lieu la première séance hebdomadaire du gouvernement avec cette nouvelle configuration. Les membres du gouvernement se répartiront les secteurs dont ils auront la charge. La situation de la maison de la Nouvelle-Calédonie en débat hier matin au cours d'une commission plénière au Congrès à huis clos. Une discussion sans vote pour évoquer les difficultés financières de cette structure destinée à accompagner les Calédoniens arrivant en métropole, notamment les étudiants, dans leurs démarches administratives. La maison de la Nouvelle-Calédonie est une association, mais la question de sa transformation juridique se pose pour assurer son financement. Dans le reste de l'actualité ce matin, cette question, comment préparer sa sortie de prison ? C'était l'objectif du Forum des métiers qui se tenait hier au Camp Est. Près de 80 détenus, hommes et femmes, sur les 550 qui peuplent le centre détention de Nouméa, y ont participé, Léo Fichou.
Oui, pour cette journée, pas de recruteurs, mais des intervenants spécialisés dans l'orientation et la formation. Sortir de prison est la première étape, mais pour prévenir la récidive, il est essentiel de construire un projet solide. Il s'agissait du premier événement de ce type à voir le jour à Nouméa. Il était organisé en partenariat entre le SPIP, le service pénitentiaire d'insertion et de probation, et l'école de la réussite. Diane Chevreau, chef d'établissement du centre pénitentiaire de Nouméa.
C'était une demande pérenne, en tout cas de la population pénale, qui émanait notamment de l'article 29, donc ce qui concerne en fait la consultation des personnes détenues, où ils ont exprimé à plusieurs reprises cette volonté d'avoir un lien entre le dedans et le dehors pour pouvoir justement parfaire leur réinsertion et préparer leur sortie par la suite. Donc c'est un beau succès. On a plusieurs intervenants et prestataires qui sont présents aujourd'hui. Ils ont tous montré un intérêt certain pour les différents entretiens qu'ils ont menés.
L'événement a nécessité une organisation de longue date de la part de tous. Les détenus ont ainsi pu s'inscrire en amont à ce forum et déjà réfléchir à leur projet de réinsertion professionnelle, car beaucoup sont en fin ou en aménagement de peine et il est parfois difficile de savoir vers qui s'orienter. 15 intervenants ont répondu présents, parmi eux l'Université de la Nouvelle-Calédonie, la Chambre d'agriculture et de la pêche, l'ADI, le GIEP, mais aussi l'entreprise d'insertion Envie, des possibilités qui donnent espoir aux participants du forum.
C'est bien pour nous ici, pour la réinsertion, parce qu'il y en a beaucoup d'entre nous ici qui n'ont pas de boulot. Fait que du coup, que le forum il se déplace vers nous ici, au centre pénitentiaire, c'est bien pour nous, pour pouvoir avoir un après, quoi, s'orienter sur quelque chose de concret. Il faut essayer de se lancer, parce que si on ne se lance pas, on n'aboutira à rien. J'aimerais bien faire paysagiste ou voir avec la GIEP pour le métier de la mer, pour faire matelot de pont, travailler dans le naviguement, le métier de la pêche.
C'est important parce que tout le monde a le droit à une chance de travailler, de pouvoir s'en sortir. C'est pas forcément, même pour les personnes aussi qui ont une étiquette, de pouvoir s'en sortir. Après, ce serait pour changer un peu le regard des autres et tout. Il faut s'en sortir, il faut avancer, même s'il y a des hauts et des bas, si on ne trouve pas, mais genre de continuer quand même à persévérer, de trouver pour s'en sortir un peu, de pouvoir assurer un peu.
Les participants au forum ont notamment pu s'inscrire à l'école de la réussite pour bénéficier d'un accompagnement personnalisé pour leur futur parcours professionnel. Le même événement avait déjà été organisé en septembre dernier au centre de détention de Koné, où près d'un tiers des détenus avaient participé.
En bref, un séminaire sur la justice est organisé aujourd'hui au Sénat coutumier, un séminaire visant à développer les TIG, les travaux d'intérêt général au sein des aires coutumières. Un séminaire organisé en partenariat avec le tribunal de première instance de Nouméa.
Radio Rythme Bleu, opinion.
Et c'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Voici notre question du jour. On en parlait il y a quelques instants. Faut-il tout faire, selon vous, pour sauver la maison de la Nouvelle-Calédonie à Paris? Si vous pensez que oui, vous tapez 1. Si vous pensez que non, vous tapez 2. Et vous envoyez votre réponse par SMS au 3146. La réponse à notre question d'hier à présent, 92% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS pensent que la DEC a tort de suspendre son service de cantine malgré les 300 millions accordés par le Congrès à l'enseignement catholique. Ils sont donc 8% à penser que la DEC a raison. Merci pour votre participation et rendez-vous demain pour la réponse à la question du jour. Et justement, l'incompréhension de la Fédération calédonienne des parents d'élèves. Depuis lundi, la DEC a suspendu le service de cantine dans ses écoles. On en a largement parlé dans nos rendez-vous d'information et on y reviendra tout à l'heure à 7h30 avec notre invité du matin. C'est en effet Sylvain Onze, le président de la Fédération calédonienne des parents d'élèves, qui sera dans nos studios en direct. En attendant, il est 6h49. On va marquer une nouvelle pause dans ce journal et ensuite direction New York, où l'élection du maire de la ville est un sujet de politique nationale pour les Américains.
RRB 6h-8h, Nicolas Legrand.
C'est la fête chez Auchan Quai Ferry et Auchan Auteuil. Du 3 au 30 novembre, on célèbre nos 2 ans avec un grand jeu anniversaire. 3 millions de francs de cadeaux à gagner et un super caddie surprise de 55 000 francs chaque jour et par magasin. Et en plus, profitez de bons d'achat, de remises en cagnotage et de prix promo tout le mois. Auchan Quai Ferry et Auchan Auteuil, 2 ans et toujours plus pour vous.
Vous êtes une entreprise, association ou collectivité? Vous réduisez, réutilisez, recyclez les déchets ou vous souhaitez vous lancer dans cette démarche? La Province Sud et l'ADEME peuvent financer votre projet. Pour cela, il suffit de répondre à l'appel à projet Économie Circulaire avant le 14 novembre. Rendez-vous sur le site province-sud.nc.
La Province Sud, agir pour l'avenir.
Du 1er
1er novembre au 15 décembre 2025, Mobile t'embarque pour une course incroyable. Tente de gagner un voyage pour deux pour assister au Grand Prix de Formule 1 d'Australie à Melbourne en mars 2026. Et ce n'est pas tout. 20 polos F1 Racing Red Bull sont aussi à gagner. Rendez-vous dans ta station mobile pour participer et tenter ta chance. Jeu gratuit sans obligation d'achat. Règlement disponible en station. Construisons notre pays, économisons l'énergie.
Toute l'info en trois lettres. RRB.
La suite d'Info Matin, direction New York, avec vous Nicolas Legrand.
Oui, la Big Apple qui connaîtra son futur maire ce matin. La mairie n'est plus républicaine depuis plus de 10 ans maintenant, mais là, c'est un nouveau tournant qui semble s'écrire avec Zoran Mamdani. Il a 34 ans, il se déclare démocrate socialiste et surtout pro-palestinien dans une ville à forte communauté juive. Rémi Amalvi est le correspondant d'Europe 1 aux États-Unis.
Les républicains et une partie des démocrates dénoncent son soutien affiché à la cause palestinienne. Il s'est dit en faveur des mouvements de boycott contre Israël. Il accuse d'ailleurs l'État hébreu de commettre un génocide à Gaza. Et puis il y a cette phrase prononcée en décembre dernier lors d'une interview.
En tant que maire, je ferai arrêter Benjamin Netanyahou s'il vient à New York. Les valeurs de notre ville sont en accord avec le droit international.
Zoran Mamdani est aussi accusé de promouvoir un programme économique trop orienté à gauche. Il veut taxer de 2% les revenus annuels supérieurs à 1 million de dollars et faire passer l'impôt sur les sociétés à 11,5%. De quoi financer ses trois grands projets pour New York. Mieux contrôler les loyers exorbitants, développer un système universel de sécurité sociale et rendre les bus de la ville gratuits. Zoran Mamdani est également perçu comme peu expérimenté. Sa carrière politique a commencé en 2021 lorsqu'il est élu à la chambre basse de l'État de New York. Avant cela, cet enfant d'une riche famille indienne née en Ouganda s'était lancé dans une carrière dans la musique. Ces derniers mois, les milliardaires de New York ont dépensé des millions de dollars dans des publicités largement relayées en ligne, où ils accusent Mamdani d'être un communiste et un antisémite qui souhaite détruire New York. Pas de quoi convaincre les électeurs. Le jeune candidat est pour l'instant largement en tête dans les sondages.
À Radio Rythme Bleu, 6h52.
L'actualité culturelle, Laurent Mauvignier, le nouveau prix Goncourt. Son livre La Maison Vide aux éditions de Minuit a été couronné par 6 voix contre 4. Notez également qu'aucune voix n'est allée au pourtant très bon Kolkhoz d'Emmanuel Carrère. Laurent Mauvignier est pourtant considéré comme l'un des écrivains les plus talentueux de sa génération, n'avait jusqu'alors jamais remporté aucun prix. C'est donc une consécration tardive, mais méritée. Nicolas Caro pour Europe 1.
Son livre de 700 pages a été porté par le public et les critiques depuis la fin de l'été. Il l'a écrit en partie malade, à l'hôpital même parfois, une remontée dans son arbre généalogique avec entre autres Marie-Ernestine et Marguerite, son arrière-grand-mère et sa grand-mère. Mais c'est d'abord à ses parents qu'il pense chez Drouhan au moment de recevoir le prix. Laurent Mauvignier.
C'est une grande joie. Je pense surtout à ma mère, à mon père, voilà, parce que c'est d'abord à deux que je le dois. Ma mère parce qu'elle m'a raconté les histoires et puis mon père parce qu'il n'est plus là. Mais lui, il les a subis ces histoires. Mais pour moi, évidemment, ça continue à me relier à toute cette partie de ma famille. Ouais.
La rentrée littéraire 2025 était placée sous le signe de la famille. Le prix Goncourt va dans le même sens. Côté librairie, on est ravis. La Maison Vide se vendait déjà très bien et le Goncourt promet en moyenne 400 000 ventes. Mmh.
Nicolas Caro pour Europe 1, que vous retrouvez d'ailleurs tous les week-ends sur Radio Rythme Bleu dans La Voix et Livre. Rendez-vous le dimanche à 13h. Il est 6h passé de 53 minutes. Vous écoutez Radio Rythme Bleu. On va marquer une dernière pause publicitaire et ensuite on se retrouve avec Léo Fichou pour toute l'actualité sportive et notamment la Ligue des Champions de football.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Chez Sima Quincaillerie, c'est la quinzaine du jardin. Le taille est 18 volts LXT Makita longueur 50 cm et vendu sans batterie 49 900 francs. Du 1er au 15 novembre, dans la limite des stocks disponibles. Plus d'infos sur Facebook et sur simac.nc. À Nouméa, Carrefour du 4e et à Koné, lotissement Kateviti. Sima Quincaillerie, tout le monde s'y retrouve.
Speed Marine booste son offre carénage pour cette fin d'année. 15% de remise sur votre anti-fouling en donnant le code SPEED2025. Ouvrez votre compte carénage chez Speed Marine et bénéficiez gratuitement du carshare et de l'échafaudage. Partez l'esprit tranquille avec Speed Marine. Retrouvez toutes nos offres sur notre page Facebook.
Optique Boulary, la solution pour vos lunettes avec contrôle de la vue, même sans ordonnance. Vos marques préférées, Oakley, Maui Jim, Michael Kors, Ray-Ban et votre seconde paire, offertes toute l'année. Optique Boulary, l'opticien du Mont d'Or.
Tout le sport en trois lettres, RRB.
L'actualité sportive, on retrouve Nicolas Legrand.
Et on ouvre cette page sport avec le football sur la scène européenne. 9 matchs pour la 4e journée de phase de groupe de la Ligue des Champions qui se joue ce matin, Léo Fichou.
Et ça a commencé à 4h45 avec deux rencontres qui viennent de se terminer. Naples, Eintracht Francfort 0-0 et Slavia Prague, Arsenal, victoire 3-0 des Gunners. Mais les matchs qui nous intéressent démarrent dans quelques minutes à 7h des clubs français et des chocs au programme. Le Paris Saint-Germain d'abord qui accueille le Bayern Munich. Les deux clubs invaincus avec 3 victoires en autant de matchs de Ligue des Champions. On suivra également un match dans le match entre deux attaquants, Ousmane Dembélé et Harry Kane. Et si beaucoup auront les yeux rivés sur ce choc entre le PSG et le Bayern, de nombreux supporters suivront également l'autre grande affiche de la journée qui démarre également à 7h, Liverpool qui reçoit le Real Madrid. Monaco de son côté se déplace en Norvège sur la pelouse du Bodø Glimt. Les joueurs du Rocher qui pointent actuellement à la 28e place, synonyme d'élimination. Ils restent sur 2 nuls et une défaite en Ligue des Champions. On notera également que demain, toujours à 7h, l'Olympique de Marseille recevra l'Atalanta Bergame et Manchester City accueillera Dortmund.
Et sur la planète sport, Léo Fichou, il y avait l'un des événements phares de la région qui s'est déroulé hier après-midi en Australie, la 165e édition de la Melbourne Cup. Vous avez suivi la course à Nouméa avec les Turfistes calédoniens.
Oui, du côté de l'école de golf Jean-Louis Guépy à l'hippodrome de Nouméa, comme chaque année, les amateurs et parieurs s'étaient donné rendez-vous pour suivre la course de l'année dans le Pacifique. Une course hippique de 3200 mètres remporté par le numéro 14, Alfiors, devant le 20, Goody Two Shoes, et le 7, Middlehurst, je vous propose d'écouter.
Valiant King, 51 kilos.
Et là, le favori, aujourd'hui?
Le 1, le 14,
le 6 aussi.
Le 6.
Le 18 aussi.
C'est le rendez-vous de l'Asie-Pacifique. C'est aussi gros que l'Arc de Triomphe en Europe. Depuis que le practice existe, on a toujours célébré la Melbourne Cup.
Chaque année, on se retrouve ici, ça permet de rencontrer les copains et puis passer du bon temps ensemble, avec un bon repas et puis surtout regarder la plus grande course du moment. Quoi.
Avant la course, s'il y avait un numéro en cheval à donner.
Moi, j'aime bien parce qu'on est quand même chauvin. Moi, c'est le numéro 6, présage nocturne.
Et pour vous,
le 14.
Allez.
Regarde, ils sont tous concentrés à la barrière. C'est pourquoi? C'est à cause de l'état de l'affiche.
Ah, le 23, il est devant, là, il est placé. Dans les 5 premiers.
Et voilà.
Et voilà.
La femme, Jamie Mellam.
Jamie Mellam, c'est le favori. Voilà.
14.
Je pensais qu'il n'allait pas tenir la distance. Il avait gagné 2004, mais là, il nous fait mentir parce que la distance, il avait vraiment dans les jambes 3002, non, perfect.
Et son mari jockey dans la course aussi.
Et vos numéros de départ?
Moi, c'était le 14, je vous ai dit tout à l'heure. Je suis content parce que c'est une jockeyette qui est une vraie professionnelle. Elle monte très, très bien.
Je rappelle le tiercé gagnant de cette 165e édition de la Melbourne Cup, le 14, Alfiors, devant le 20, Goody Two Shoes, et le 7, Middlehurst.
Merci beaucoup, Léo Fichou. On termine ce journal avec la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Et vous êtes dans le tiercé gagnant de ce journal, Thierry, pour la météo.
Youpi ! Allez, c'est parti. Ce matin, le soleil l'emportera largement, bien que souvent voilé par des nuages élevés en début de matinée sur la pointe sud et les loyautés des nuages bas circuleront et des averses seront possibles. Sur l'est et au loyauté, on parle du vent à présent. Il sera variable faible de secteur sud-est proche des 5 nœuds. Ailleurs, il sera établi au sud-sud-est autour des 5 à 10 nœuds et voire 10 nœuds sur le nord-ouest. Ce sera le maximum pour ce matin. Cet après-midi, des nuages se formeront sur la chaîne et donneront des averses qui déborderont ensuite sur l'est. Des averses intéresseront également les loyautés. Ailleurs, le temps sera lumineux, même si des nuages élevés voileront partiellement le soleil. Le vent pour cet après-midi, sud-sud-est autour des 10 à 15 nœuds, voire localement sur le nord-ouest, plus de 15 nœuds. Sur la côte est, il sera plus faible et excédera pas les 10 nœuds. Les températures comprises, elles, pour cet après-midi, entre 26 et 30 degrés.